par publication lundi dernier à Kinshasa du rapport de l'ONG internationale Greenpeace intitulé « L'exploitation forestière illégale en RDC, un mauvais scénario ». Dans ce rapport, cette ONG dénonce entre autres les effets dévastateurs de l'exploitation illégale de la forêt en RDC, l'absence de gouvernance, la non-application des lois et le manque de transparence dans ce secteur. Comment analyser ce rapport de Greenpeace ? Nous recevons comme invité Mme Irène Wabiwa, chargée de campagne forêt à Greenpeace Afrique. Madame Wabiwa, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Alain.
Maître Alain Balaka, conseiller juridique au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Maître Alain Balaka, bonsoir.
Bonsoir, mon amour.
Al Kitenge, analyste économique et stratège. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Merci pour vos réactions, chers auditeurs et internautes. Adolphe de Bukavu Sud qui vous dit, à part notre code forestier, il faut sécuriser nos frontières et exiger une certification de ces ressources dans les marchés internationaux. Serge Angoro de Kisangani en province orientale, lui, pense qu'exploiter le bois n'est pas mauvais, mais il faut que notre gouvernement mette en place tous les moyens possibles pour bien canaliser cet argent au trésor public pour que tous les Congolais puissent en bénéficier. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Publication du rapport de l'organisation internationale Greenpeace Africa lundi dernier à Kinshasa. Il est intitulé « L'exploitation forestière illégale en RDC, un mauvais scénario ». Cette ONG met à nu les effets dévastateurs de cette exploitation illégale de la forêt en RDC et l'absence de gouvernance, de l'application des lois et de transparence que connaît cette deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Kelly Nkouté.
Sur base des recherches et des visites de terrain dans la province du Bandundu et certaines installations portuaires, ce rapport explique comment les sociétés d'exploitation forestière bafouent la loi congolaise. Selon ce même rapport, les compagnies forestières contournent le moratoire sur le nouveau permis d'exploitation industrielle par l'utilisation illégale des permis artisanaux qui, officiellement, ne doivent être utilisés que pour l'exploitation forestière à petite échelle. Irène Wabiwa, chargée des campagnes forêt Greenpeace Afrique.
Le ministre a pris plusieurs mesures, mais il n'y a pas de suivi. Parce que quand vous allez sur le terrain, c'est comme s'il n'y a rien eu. Il a eu à annuler certains titres parce que ces titres continuent à être fonctionnels.
Autre problème dénoncé dans ce rapport, la destination du bois exploité en RDC n'est pas connue. Sylvain Malou, coordonnateur de l'ONG OCCD.
Sur les 80 000 mètres cubes de bois sortis, plus du tiers, c'est-à-dire 37%, n'ont pas de destination connue. C'est-à-dire le port de déchargement se pointe noir. Est-ce que nous pouvons comprendre qu'on achète le bois au Congo Kinshasa pour le vendre à Congo Brazzaville? 2% de bois congolais doit atterrir à Abidjan.
Au sujet des grumes saisies dans les entrepôts de la société Cotrefort à Kinkolé il y a quelques jours, Greenpeace déplore le fait que ces bois ont été exportés en Chine sans trace. Selon les données de l'OCC, rapporte Greenpeace, la Chine est à présent le plus gros importateur de bois congolais et devrait mettre en place de manière urgente des mesures pour cesser tout commerce illégal du bois. En Europe, selon toujours ce rapport, la France, le Portugal, la Belgique, le Pays-Bas et l'Italie sont les principaux importateurs du bois de la RDC.
Merci Kevin Kouté. En réaction à la publication du rapport de Greenpeace, Françoise Van de Ven, secrétaire générale de la Fédération des industriels du bois en RDC, dit ne pas être concernée par ce rapport car selon elle, Greenpeace, en présentant ces sociétés qui exploitent du bois comme des industriels, crée une confusion dans la tête de non seulement les ressortissants congolais, mais également les consommateurs européens. Écoutons Françoise Van de Ven, secrétaire générale de la Fédération des industriels du bois en RDC. Au téléphone de Samuel Kachak.
Nous ne sommes pas concernés par ce rapport-là, vu qu'il parle réellement de sociétés qui se font passer pour des industriels et qui ne le sont pas. Greenpeace a cette fâcheuse méthode de toujours parler de sociétés industrielles. Les sociétés qui ont été citées dans ce rapport-là, qui se livrent à cette coupe illégale, ce sont pas des concessionnaires, ils sont certainement pas membres de la FIP, et d'ailleurs la FIP étant membre de la Coalition Nationale de Lutte contre l'Exploitation Illégale avec les ONG et les bailleurs de fonds, a déjà depuis des années dénoncé les activités de ces sociétés-là. Et nous sommes quelque part très heureux qu'aujourd'hui, le tout est vraiment mis à la une et nous espérons qu'avec tous les efforts réunis de tout le monde, nous puissions ensemble mettre fin à ça. Et je peux vous garantir qu'il y a plusieurs sociétés industrielles mais concessionnaires qui sont aujourd'hui dans des difficultés sérieuses à cause justement de cette exploitation illégale qui n'a fait que galoper depuis 2 ans. La loi, elle est très claire. On ne peut pas donner des permis à ce genre de sociétés. Ils ne peuvent pas couper au-delà des 50 hectares ni le volume qui a été précisé. C'est là où le problème vient. Si on applique la loi, on n'aurait jamais pu arriver à une pareille situation.
Madame Irène Wabiwa, vous êtes chargée de campagne forêt à Greenpeace Afrique. L'exploitation illégale en RDC, un mauvais scénario, c'est le titre du rapport que vous publiez. Quel sens donnez-vous finalement à ce titre?
Merci Monsieur Alain pour la question. Au fait, comme nous l'avons dit, le gouvernement congolais s'est impliqué dans la lutte contre l'exploitation illégale depuis quelques temps actuellement. Mais Greenpeace, qui est mon organisation, nous avons mené des enquêtes et des recherches sur terrain pour évaluer et essayer de voir si réellement la lutte que mène le ministère de l'Environnement et a des effets palpables sur le terrain. Lorsque nous sommes rendus sur le terrain, dans plusieurs endroits de la République, et beaucoup plus précisément dans la province du Bandundu, dans les ports de Matadi, dans la province du Bas-Congo et au port des Kinkolé, nous nous sommes rendus compte que l'exploitation illégale continue à mener sa voie normale. Le bois qui ont été saisis par le ministère de l'Environnement, les permis des coupes artisanales qui ont été annulés par le ministère de l'Environnement continuent bel et bien à être utilisés par les exploitants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un contrôle efficace, mais également il n'y a pas eu un suivi efficace après la mesure qui a été prise.
Alors, à parcourir votre rapport, on a pratiquement l'impression que toute la responsabilité incombe au ministère du Tourisme, de l'Environnement.
Notre rapport, bien sûr, parle beaucoup plus du ministère de l'Environnement parce que c'est le ministère en charge de la question forestière, de la gestion forestière. Mais nous avons aussi parlé d'autres services qui sont impliqués parce qu'il n'y a pas que le ministère de l'Environnement. Bien sûr, c'est le ministère de l'Environnement qui a la grande responsabilité, mais il y a d'autres services qui sont censés travailler pour la bonne gestion et la commercialisation légale du bois. Par exemple, nous avons cité l'OCC qui est l'Office national du contrôle. Et nous avons cité aussi la régie de voies fluviales qui sont aussi impliquées dans ces circuits, en tout cas en ce qui concerne l'exportation de bois. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des déficits dans les travaux que mènent ces différents services.
Alors un extrait du rapport dit, je cite, la lutte contre l'exploitation illégale du bois du ministère est loin d'avoir assaini le secteur forestier. L'exploitation illégale et le chaos dans les ports démontrent que le secteur forestier demeure hors de contrôle. C'est une affirmation très forte.
Absolument. Parce que nous avons dit cela parce que nous nous sommes rendus sur le terrain. Bien sûr qu'il y a des efforts qui sont menés par le ministère de l'Environnement.
Qui semblent insuffisants.
Mais jusque-là, ces efforts sont insuffisants. Et ce que nous demandons au ministère de l'Environnement, c'est de continuer dans ce combat-là et de renforcer la dose. Parce que l'adversaire est très très forte. Et l'adversaire, quand je parle de l'adversaire, je suis en train de voir les exploitants illégaux. Les exploitants, ils sont très très forts. Mais la dose qu'utilise le ministère de l'Environnement jusqu'à là semble insuffisante. Voilà pourquoi nous demandons au ministère de l'Environnement de renforcer la dose, de prendre beaucoup d'autres mécanismes et de prendre des stratégies qui sont à la hauteur de l'adversaire.
Alors les recommandations, nous allons les prendre dans la deuxième partie de cette émission, Madame Wabiwa. Mais un autre extrait du rapport dit « La transparence est inexistante. Greenpeace a découvert ce qui paraît être une arnaque majeure à la fraude fiscale. Certains exploitants semblent avoir exporté des milliers de mètres cubes de grumes absentes dans la base de données de l'OCC que vous citez. On trouve du bois non marqué partout, au chantier, sur la route et sur le fleuve et les rivières, dans les ports. Et donc, il y a un grand problème de transparence, comme vous le dites.
Il y a un grand problème de transparence et il y a un grand problème dans la gestion, dans la réception, dans les recettes fiscales. Nous avons mené des recherches sur le terrain et nous sommes rendus compte que la plupart d'exploitants, que ce soit des exploitants formels ou non formels, ils ne payent pas des taxes. Ces exploitants ne payent pas des taxes. Et la plupart de ces exploitants comme CEBA, CAB, IFO, IFA, ils ne sont pas enregistrés dans les données de l'OCC. Et nous avons essayé essayer de comparer les données qu'ont enregistrées OCC et RVF là, en 2011, nous sommes rendus compte que ces exploitants-là, ces compagnies-là, qui ont coupé un très grand nombre de bois, et ils ont même exporté ce bois, mais ils ne figurent pas dans les données de l'OCC, et on laisse croire, et cela laisse croire qu'il y a eu fraude fiscale. Ils ne sont pas répertoriés, et on ne sait pas où est-ce qu'ils ont payé leurs taxes, parce que dans les données officielles, ils ne sont pas présents.
Le rapport démontre également que les sociétés montrent un manque de respect total pour la loi et ses agents. Greenpeace a notamment vu des autorités être menacées, bousculées, chassées d'un site d'exploitation Irène-Wabiwa.
Bien sûr.
Malheureusement,
ça c'est le cas que nous avons malheureusement eu à observer. C'est la société Terco qui le ministère avait saisi le bois, et lorsqu'il y avait un bateau qui était venu évacuer les bois illégaux, il y avait deux officiels qui accompagnaient le bois. Il y avait un conseiller du ministre provincial, un conseiller du ministre national, qui ont été malheureusement menacés par les travailleurs des Terco. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus évacuer le bois illégal. Et là, c'est un incident très malheureux, et ce n'est pas possible de voir que les exploitants qui sont non seulement illégaux, mais n'ont pas du respect envers la loi, mais également envers les administrateurs, les fonctionnaires de l'État.
L'assistant Samy Djakongwa, qui nous écrit de Mahagui en province orientale, dit: nous nous réjouissons de la publication de ce rapport, mais nous regrettons que la plupart des rapports des ONG opérant dans le secteur forestier sont partiels et ne prennent pas en compte les réalités de l'ensemble du territoire national. Nous prenons pour exemple l'exploitation abusive des forêts de l'Ituri sans impact social sur les communautés locales, précisément en territoire de Mahagui et de Mambasa, ainsi que l'exploitation des bois de manière illicite vers l'Ouganda. Cela constitue à la fois un manque à gagner pour le trésor public et un crime contre l'environnement. Nous en appelons à la vigilance des autorités du pays. Madame Wabiwa, apparemment, le rapport ne porte que sur trois provinces, le Bandundu, le Bas-Congo et Kinshasa. Cela ne serait-il pas une faiblesse de ce rapport?
Greenpeace ne travaille pas seul. Greenpeace travaille avec des partenaires qui sont des ONG nationales. Et à l'occurrence, l'ONG Océan et le réseau RRN, qui est un réseau national et qui couvre toute la République démocratique du Congo. Et avec ces partenaires, nous avons des données qui viennent de partout. Et ces ONG ont toujours, et ils continuent toujours à dénoncer les abus qui s'effectuent dans la province du Bandundu, Équateur et province orientale. Et l'ONG aussi dont je parle, son siège est à Kisangani, ils ont plusieurs fois dénoncé ce qui se passe dans cette province. Et donc ça, c'est une Greenpeace est venu juste compléter ce qui existe toujours. Et on ne peut pas dire qu'on oublie la province orientale, parce que nous avons des partenaires et nous menons aussi des travaux là-dessus.
Maître Alain Balaka, vous êtes conseiller juridique au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Comment vous avez reçu ce rapport de Greenpeace?
Merci, monsieur. Je crois que le rapport de Greenpeace était le bienvenu au niveau du ministère de l'Environnement, parce que nous considérons Greenpeace comme un des partenaires en train de dénoncer la fraude qui s'orchestre dans le secteur de l'environnement. Mais là où j'ai pas été d'accord avec Greenpeace, c'est lorsque il fait croire au monde et à la population que le ministère ou les gouvernements semblent être faibles par rapport à l'exploitation illégale des bois. Nous avons eu à faire remarquer, puisque au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun permis qui est octroyé. Il n'y a aucun exploitant qui bénéficie au niveau du ministère de l'Environnement une autorisation de l'exploitation des forêts. Nous ne sommes en train que de chercher, de continuer à combattre les cas déjà isolés. Les permis ont été annulés. Greenpeace devait. Nous avons estimé que Greenpeace n'a pas eu l'information à la source au niveau du ministère de l'Environnement, parce qu'il aurait dû comprendre facilement que le ministère a pris des actions contre toutes ces autorisations, contre tous ces exploitants illégaux, et que le ministère ne pouvait pas seul agir sur le terrain, parce que le ministère a ses responsabilités, il a sa part de responsabilité. Il y a des services transversaux du gouvernement. Nous avons cité la RVF, nous avons cité les instances judiciaires, parce que lorsque le ministère arrive à saisir des bois issus de sources illégales, il y a des infractions qui sont commises là-dessus. Qu'est-ce que nous faisons au niveau du ministère? Après que nos inspecteurs de la DCVI aient pris connaissance du dossier, procédé à la saisie, instruit les dossiers, ils ne peuvent que transférer au niveau du parquet. C'est à ce stade-là que le magistrat, organe de la loi, officier du ministère public, juge opportun de procéder à la levée des saisies et restituer le bois à son propriétaire. C'est comme ça que Greenpeace estime qu'il n'y a pas suivi au niveau du ministère de l'Environnement. Mais nous n'allons pas nous mettre en barrière contre les décisions judiciaires déjà rendues en toute indépendance. Donc voilà, à ce qui concerne les rapports de Greenpeace, l'interprétation au niveau du ministère. Mais il faudra reconnaître que le ministère est en train de mener, il fait des efforts notables par rapport à cette exploitation illégale des bois. Et nous avons eu à démontrer que, à l'heure où nous parlons, même quand Greenpeace organise la conférence de presse, son excellence monsieur le ministre de l'Environnement, même à l'heure où je vous parle, il est dans la forêt, à Inongo, toujours dans la lutte contre l'exploitation illégale. Donc il n'est pas dans son bureau. J'ai pas été content lorsque les amis de Greenpeace disent que non, nous demandons au gouvernement de ne pas rester dans des bureaux climatisés, non. Mais nous sommes sur terrain. Moi-même qui vous parle ici, le conseil du ministre, je rentre fraîchement de Bandundu, où j'étais dans la forêt, en train de surprendre une société chinoise, au nom de King Yuan, en train d'exploiter illégalement. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons procédé à la saisie de tous les bois de King Yuan, qui exploitaient à travers des permis de coupe artisanale.
Alors, vous n'êtes pas d'accord, si je comprends, avec l'affirmation de Greenpeace qui dit que le secteur forestier demeure hors contrôle.
Non, c'est faux, parce que nous sommes en train de mettre... Vous savez, monsieur le journaliste, ça c'est une situation qui date de très longtemps. Et il faudrait que l'action ou les actions du gouvernement puissent quand même... des actions pérennes, qui doivent durer dans l'état et dans l'espace. C'est pas du tic au tac. On peut pas venir aujourd'hui, on dit non, nous bloquons, nous maîtrisons la secteur. Non, il faut... C'est tout un processus. Et aussi avec des amis, des services transversaux de la République pour que nous essayons de maîtriser le fléau. Vous comprenez? Le Greenpeace parle du cas de Terco, par exemple. Je vais vous informer. J'informe à Greenpeace, n'a pas été au courant. Je me suis rendu dans le province de Bandundu. Je trouve les conflits qui opposaient la société Terco à la société Riba, une des concessionnaires de l'environnement. Le dossier était devant le magistrat du parquet général de Bandundu. Terco a bénéficié de la décision de la justice. On lui a restitué le bois. Arrivé à Kinkole, parce qu'on vous dit que des conseillers du ministre, bon, Greenpeace déclare que Terco aurait même...
On était pris à partie.
Ouais. Non, mais c'est faux, parce que c'est moi qui suis allé dans cette mission. Et quelle mission? Une mission mixte avec les amis de la ville, pour vous dire que c'est ça. C'est-à-dire pour vous dire que le ministre, dans son ambition, dans sa vision, il est en train de demander, d'inviter tout le monde à ce que chacun prenne sa part de responsabilité, même au niveau des provinces. Arrivé sur terrain, nous avons ordonné que les bois de Terco soient saisis. Et à l'heure où je vous parle, les bois de Terco étaient sous-saisis au niveau du ministère de l'Environnement. Terco va voir le parquet général de Matete. Et on nous enverra un procès verbal de levée de saisie de ces bois. Je vous informe en passant que sur terrain, si vous descendez aujourd'hui au port de Sotraco à Kinkole, vous trouverez un véhicule avec des bois à l'intérieur, appartenant à une société chinoise, Songli.
Alors, dans
vous comprenez, le secteur est contrôlé.
Dans le reportage que nous avons suivi en début d'émission, Maître Mbalaka, il semblerait qu'il y ait aussi un problème de traçabilité de ce bois qui quitte la RDC et qui prend des destinations inconnues.
Non, je crois que ce problème est en train d'être résolu. Nous sommes dans un processus PCPCB. C'est un système qui est en train d'être mis en place avec nos amis de la SIGS. C'est pour que nous puissions contrôler les bois avec des systèmes très bien informatisés du lieu de coupe à l'exportation. Donc, je vous dis, il y a des mécanismes qui sont mis en place à train d'être analysés pour maîtriser les secteurs dans tout son ensemble.
Merci maître, je vous redonne la parole tout à l'heure. Al Kitenge, vous êtes analyste économique et stratège. Comment vous avez reçu ce rapport de Greenpeace? Vous venez de suivre la réaction du ministère de l'Environnement.
D'abord, rapport de Greenpeace. Je voudrais vous rappeler le statut de Greenpeace. Greenpeace, c'est une ONG internationale. C'est donc Greenpeace qui se soucie de la République démocratique du Congo et des problèmes de la République démocratique du Congo. Où est notre société civile? Où sont nos députés qui sont censés surveiller la cité? Vous rendez bien compte que nous avons un véritable problème. Pourquoi c'est toujours les autres pour nous montrer ce qu'il y a à faire? Pourquoi nous sommes, nous, tributaires d'un mauvais classement de doing business? Pourquoi nous n'avons pas des critères internes de performance? Je vais vous répondre. On parle de bafouer la loi, on parle d'une pauvre gouvernance, on parle de manque de respect pour l'État. En fait, on parle de non-État, on parle de la fraude, du conflit d'intérêts. Les faiblesses du Congo et du Congolais, c'est toujours le conflit d'intérêts. Allez regarder derrière ces Chinois, ces Libanais, ces autres exploitants. Vous allez trouver des conseillers, des ministres, des anciens ministres, des gens qui étaient en situation de pouvoir réglementer la question et très malheureusement se retrouvent entre l'action et la réglementation et bien entendu le conflit d'intérêts étant, nous passons facilement et très rapidement dans la mafia. Et c'est des choses qui malheureusement nous affaiblissent. Le jour où nous apprendrons à prendre la distance nécessaire vis-à-vis des choses que nous réglementons, les choses iront très bien. Moi, je dis tout le temps que c'est un sacerdoce que d'accepter d'aller travailler pour la fonction publique ou d'aller travailler au gouvernement. On doit savoir à quoi s'en tenir. On ne peut pas faire des affaires en étant aux commandes de l'État. Je passe. Par contre, qu'est-ce que nous devons apprendre de ce rapport ? Que l'État est très faible, et d'ailleurs le conseiller le dit tout à l'heure, le ministère se débat et essaie de mettre en place des mesures, mais la mise en place des mesures dans la pratique démontre clairement que ce qu'il appelle les services transversaux sont complètement incapables. Aujourd'hui, la question qu'on doit se poser c'est, où va le bois congolais ? Je vais vous le dire. Le bois congolais, il est vendu en grande partie en Chine et dans des pays qui aujourd'hui sont appelés émergents, mais il est vendu par l'Allemagne, la France et certains pays européens. Nous sommes là tributaires d'un marché triangulaire. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, les taxes et l'emploi, c'est ailleurs et pas ici. Quelle est la logique qui soutient que jusqu'aujourd'hui, nous soyons là en train de vendre des grumes ? Nous sommes parmi les derniers pays qui vendent des grumes. Ça n'a pas de sens. Dernière chose, lorsque vous faites l'exploitation par les artisanaux, la traçabilité est très compliquée. Il n'est pas logique que l'artisanat ou l'exploitation artisanale ne soit pas marginale. Et donc nous devrions nous doter d'une capacité de traçabilité liée au simple fait que nous identifions les partenaires. Et les partenaires, ce sont les industriels et bien entendu les industriels qui transforment le bois ici. Puisqu'en fait la question c'est de dire, nous voudrons mettre en place une pression limitée sur la forêt pour en tirer le maximum de ressources possibles. La seule manière c'est la valeur ajoutée locale. Laissez-moi vous dire une dernière chose. Entre le secteur minier et le secteur forestier a un cycle de 70 jours. Vous coupez le bois aujourd'hui, vous pouvez le sécher, le couper et l'exporter en 70 jours. Le cycle minier, il est beaucoup plus long que ça. Et une manière de dire, nous avons aujourd'hui une fonction économique, mais également une fonction internationalement reconnue qui est celle de l'épuration de l'air. C'est une responsabilité de l'État. C'est d'ailleurs pour ça que Greenpeace, aujourd'hui, s'implique dans notre pays. En réalité, ils n'ont que faire de notre forêt si ce n'est cette responsabilité internationale.
Un extrait du rapport Al-Kitenge. Le 26 décembre 2012, le gouverneur de la province du Bandundu publie un message officiel à l'attention des commissaires de district de Kwilu et Kwango ordonnant l'arrêt immédiat de toute exploitation forestière. En l'absence de publication des listes des permis artisanaux, il est malaisé de savoir lesquels sont concernés. D'autres districts du Bandundu, tels Plateau, où pourtant l'exploitation illégale est courante, n'ont pas reçu un tel message. Apparemment, à part le problème de conflit d'intérêts, il y a un grand problème de communication aussi à travers les différents services de l'État.
Nous sommes dans la cour du roi Peto, cher ami. Nous avons ici un pays où le chef de l'État peut prendre une décision et elle n'est pas appliquée année après année. Je vous donne toujours cet exemple de l'aéroport. C'est maintenant qu'on est en train de faire des efforts pour que dans nos frontières, le nombre de services soit limité. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas acceptable. De la même manière, lorsque vous avez un État, vous avez des mécanismes d'escalade, d'escalation de l'information et des instructions. Et vous avez des mécanismes de contrôle. Chez nous, Kinshasa pense régenter tout, mais Kinshasa, ça s'arrête à Kinshasa. Tout ce qui se passe ici n'a même pas d'impact dans certaines provinces. Je pense que l'État doit se restructurer pour devenir efficace. On a besoin d'être en mesure de prendre des mesures que l'on peut mettre en application. C'est honteux que ce soit des étrangers, que ce soit des ONG étrangères qui viennent nous faire remarquer que les mesures que nous avons prises n'ont pas été effectivement mises en place. Et je pense qu'il est important que l'État se repense, l'État repense à son efficacité. Parce que se plaindre ici ou se justifier ne donne pas de résultat. La vérité est que on a défait la fraude est massive et l'exploitation illégale est en train de nous montrer clairement que nous n'avons pas la maîtrise de notre situation. Mais moi, je voudrais attirer l'attention des gens que le secteur forestier, bien entendu, il va nous donner des revenus par le crédit carbone, mais c'est aussi un secteur économique aussi puissant que les mines.
Chef des travaux Jean-Bernard Mibeko, qui nous écrit de Mbandaka en province orientale, dit les autorités sont devenues insensibles à tous ces rapports. On revient sur les mêmes problèmes, mais sans solution à Kitenge.
Oui, ce qu'il dit est totalement vrai. Ça pose toute la question de la gouvernance. Aujourd'hui, gouverner et commander, c'est décider et mettre en pratique et mesurer les effets des décisions que l'on prend. Très malheureusement, le secteur de l'environnement et le secteur de l'exploitation du bois est en train de montrer clairement aujourd'hui que les passe-trains que nous avons mis en place, en l'occurrence ces permis de coupe pour artisanaux, ont été une espèce d'artifice pour permettre à un certain nombre de personnes d'en contourner la loi. Mais qui émet ces permis de coupe? C'est l'État lui-même. Et c'est là qu'il y a un problème. Lorsque nous rencontrons ce genre de choses, il faut aller dans le fond de la question et il faut punir les responsables.
Voilà, maître Irène, madame Irène Wabiwa, vous avez suivi la réaction de maître Alain Mbalaka à chaud. Comment vous y répondez?
Merci beaucoup, Alain. Je peux aussi préciser que je suis avocate, donc vous pouvez m'appeler maître Irène.
Je vous en prie.
Monsieur le conseiller dit que le ministre a annulé des permis. C'est que Greenpeace n'a pas nié. Nous l'avons très bien mentionné. Le ministre a annulé un certain nombre de permis. Mais lorsque vous rendez sur le terrain, vous allez vous rendre compte que le nombre de permis qui ont été annulés par le ministre ne représente qu'un poignet. Parce que sur le terrain, il y a d'énormes et d'énormes titres d'exploitation artisanale qui se retrouvent et qui sont en train de dévaster les forêts congolaises. Et ces titres, comme venait de le dire monsieur Al-Kitenge, sont émis au ministère de l'Environnement central, au ministère au niveau provincial et même au niveau de la police. Donc c'est du chaos dans le secteur forestier. Le ministre a annulé des permis, mais il faut voir, ces mêmes permis continuent à être utilisés, nous l'avons très bien dit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un contrôle efficient. Nous ne disons pas que le ministère est en train de croiser ses bras. Il est en train de fournir des efforts, mais ces efforts continuent à être insuffisants. Et il faut que le ministère ajuste la dose à la taille de l'adversaire, comme je venais de le dire. Actuellement, on parle de l'exploitant artisanal, mais en réalité, il ne s'agit pas de l'exploitation artisanale. Parce que lorsque vous rendez sur le terrain, les chantiers que nous voyons, ce ne sont pas des chantiers de l'exploitant artisanal, mais il s'agit de l'exploitation industrielle, faite par des exploitants, des personnes morales et des nationalités étrangères. Alors que selon la législation congolaise, l'exploitation artisanale est réservée pour un individu de nationalité congolaise. Et c'est pour la consommation locale. Mais ces bois qui sont issus de l'exploitation soi-disant artisanale, ils sont en train d'être exportés en Chine, en Europe et partout ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons la loi, la réglementation de l'Union européenne sur le bois. Mais l'État congolais est en train de perdre. Est-ce que le gouvernement peut nous dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes en mesure d'alimenter le marché européen avec nos bois? Mais qui est en train de perdre? Qui est en train de profiter de ces chaos? Parce que ce ne sont pas les communautés locales qui vivent dans des forêts. Ce ne sont pas des peuples congolais que je suis, par exemple. Et ce n'est pas la caisse de l'État. Parce que la caisse de l'État n'enregistre rien. Que rapporte le secteur forestier dans l'économie nationale? C'est 0,4%. À qui profite ces chaos? Il est temps d'assainir les secteurs.
Alors nous allons quitter momentanément ce studio pour aller à Mbandaka, à l'Équateur, où il y a grincement des dents des vendeurs du bois de chauffage et de charbon de bois au marché Makila. Depuis le 25 février dernier, le service des petites moyennes entreprises et artisanat, IPMEA, ville de Mbandaka, a positionné ses agents dans les ports où accostent les pirogues qui amènent le bois de chauffage et le charbon de bois pour le recouvrement de la patente auprès de ces paysans. Cette taxe qui s'élève, à en croire les plaignants, à 12 500 francs congolais leur imposée, en plus des anciennes taxes qu'ils payent quotidiennement. Ils disent être asphyxiés des taxes de tout genre et demandent à la mairie de Mbandaka, qui vient d'introduire cette patente, de revenir sur sa décision. Témoignage d'un revendeur de bois de chauffage.
Des fois, un paysan vient avec une petite pirogue de bois pour chercher à acheter du savon. Parfois, la cargaison ne coûte que 5 000 francs congolais. Il faut payer la taxe de l'environnement, celle de la DGM, de l'ANR, sans oublier les taxes qui exigent la police fluviale et la force navale des FRDC. Voilà qu'on vient encore d'ajouter la patente des PMEA. Cette taxe s'élève à 12 000 francs congolais. Parmi nous, riverains, pêcheurs, il y a des personnes qui ne vendent des bois de chauffage que sporadiquement pour un besoin précis. On va faire payer la taxe de PMEA, soit à 12 500 francs congolais, même aux personnes qui ne vendent du bois de chauffage qu'une seule fois par an. C'est trop.
1500, c'est trop.
Voilà, alors Maître Irène Wabiwa, sur ce sujet même, il y a Albert Moshiri Maendeleo de Bukavu Sud Kivu qui dit « La question qui se pose est celle de savoir où va le peu d'argent qui est perçu par les services compétents de l'État. Il est vrai qu'il faut protéger l'environnement, mais en contrepartie, de quoi va vivre un paysan qui fabrique les planches ou les braises avec les arbres se trouvant dans son domaine ?»
Ce que nous disons, c'est que l'exploitation artisanale doit être réservée au peuple congolais. Et pour le peuple congolais. Parce que actuellement, il y a ce système de détournement. On est en train de détourner le moratoire qui existe sur l'octroi des titres d'exploitation industrielle. Et on donne aux Chinois, aux Libanais et à d'autres nationalités les titres d'exploitation artisanale, alors qu'en réalité, ils sont en train de faire l'exploitation industrielle. Et le peuple congolais, qui a le peu de moyens, qui n'a pas cette taille de se concurrencer avec ces grandes machineries, se retrouve dépaysé. Et le marché est envahi par des étrangers. Et le peuple congolais qui peut se dire, je vais faire l'exploitation artisanale pour l'alimentation du marché local, pour avoir un peu de revenus, pour survivre, n'a plus ce moyen-là parce qu'il y a ces grosses machineries. Le peuple congolais se sent en insécurité et le gouvernement congolais n'est pas en train de lutter pour l'intérêt de ce peuple. Le peuple se retrouve seul en insécurité et le pauvre paysan ne sait plus quoi faire et ne sait plus à qui se vouer.
Je signale entre-temps que par rapport à cette situation de Mbandaka, Jean-Marie Limangué, maire adjoint de Mbandaka, indique que comme l'introduction de cette taxe a posé beaucoup de problèmes dans les points de vente, il a abrogé l'ordre de mission qu'il avait signé en date du 25 février, larguant les agents du service des PMEA sur terrain. Il entend prendre un train de mesures en vue de trouver une solution à cette situation. Maître Alain Mbalaka, je rappelle que vous êtes conseiller juridique au ministère de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et Tourisme. Parmi les recommandations que formule Greenpeace, il y a notamment augmenter dramatiquement, je souligne le mot dramatiquement, la transparence, publier les données officielles sur les permis et le commerce de tous les contrats de concession, ainsi que renforcer les contrôles et l'application de la loi et prendre des mesures anticorruption effectives, enquêter sur les données RVF et OCC et poursuivre la fraude fiscale à ce niveau-là. Maître, comment vous analysez ces recommandations?
D'abord, je voulais réagir par rapport à ce que vient de déclarer Madame Wabiwa sur l'exploitation artisanale par rapport aux nationaux. C'est l'effort que le gouvernement est en train de faire et nous venons de chercher, nous cherchons à maîtriser les secteurs. Au niveau du ministère de l'Environnement, il y a une commission qui est mise en place par son excellence, monsieur le ministre, la commission de certification des demandes de permis de coupe artisanale. À l'heure actuelle, on ne peut donner un permis de coupe artisanale qu'à un Congolais, comme le dit d'ailleurs la loi. Mais il faut alors que l'on certifie si réellement la personne qui sollicite est habilitée à prendre cette autorisation.
Malheureusement, la réalité sur terrain a démontré le contraire.
Nous disons, nous sommes en train d'apporter des innovations sur terrain par rapport aux erreurs qui sont trouvées sur terrain. C'est-à-dire, nous ne contredisons pas les rapports de Greenpeace. Mais nous disons, les rapports de Greenpeace viennent qu'en soutenance des efforts qui est en train de prendre le gouvernement sur terrain. Il vous dit, nous avons annulé des permis, il vous dit, il vous parle des efforts du gouvernement. Le problème de Greenpeace, c'est toujours au niveau de suivi. C'est pourquoi nous sommes en train de démontrer que les suivis, ce n'est pas seulement le ministère de l'Environnement. Nous parlons des services transversaux. Le ministère de l'Environnement ne serait pas au port de Matadi pour surveiller comment les bois seraient portés. C'est pourquoi nous vous informons qu'il y a un atelier qui est en train d'être organisé dans les prochains jours, où nous serons tous autour de tous ces services. Et le ministère de la Justice, les instances judiciaires, les magistrats, le service de la RVF, DGDA, et tous ces mondes-là, pour réfléchir autour d'un mécanisme à mettre en place pour éradiquer la fraude dans ces secteurs. Donc nous ne contribuons pas à flot le rapport de Greenpeace, mais nous disons, nous sommes en train d'amener des efforts pour que nous puissions éradiquer la fraude dans ces secteurs.
Mais Maître Alain Mbalaka, quand on sait que les services du ministère de l'Environnement à travers le pays n'ont pas suffisamment de moyens, comment vous pouvez assurer à travers un suivi régulier, un suivi efficace, que réellement la loi sera respectée?
Vous savez, sous le problème de la loi et le service de contrôle de l'environnement, nous sommes en train de réfléchir là-dessus au niveau du ministère de l'Environnement. Mais néanmoins, nous vous rassurons que il n'y a pas seulement un problème de contrôle. Il y a aussi un problème de la force de la loi elle-même qui n'est pas du tout, qui n'est pas à l'heure par rapport à la tragédie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrêtez, ça c'est parce que le ministère ne peut pas aller au-delà de ce que le secteur a prévu comme loi. Vous allez sur le terrain, vous arrêtez quelqu'un, vous cessez le bois d'une personne, le bois qui vous coûterait plus de 50 000 euros, mais l'amende prévue au code ne serait que de 5 000 dollars. Mais cette personne peut facilement payer ses amendes. Nous sommes en train de rêver, c'est-à-dire que c'est tout un processus que nous sommes en train de vouloir installer sur le terrain pour pérenniser alors une force de la loi. Vous comprenez? Et c'est facile que si une pareille personne vous paye 5 000 dollars, alors que lorsque vous lui restituerez le bois, il aura à gagner 50 000 euros. Ça, c'est un problème de la loi qu'on doit revoir. Mais le ministère n'est pas la liste, c'est un Congolais. Vous comprenez?
Voilà. Al Kitenge, vous êtes analyste économique et stratège. Qu'est-ce qu'il faut envisager finalement comme solution?
Contre ce dysfonctionnement complet de l'État, il y a très peu de choses qu'on peut faire qui soient efficaces. Mais si on devait faire des choses, la première, c'est de annuler tous les permis à problème, les annuler purement et simplement, et réoctroyer sur des bases saines des permis en fonction du niveau d'exploitation de chacun. Deuxième chose, il faut immédiatement stopper l'exportation du bois brut, ça veut dire des grumes. Parce que les grumes sont moins faciles à suivre que le bois scié ou le bois travaillé. Et la troisième des choses, créer ici la bourse des matières premières, en l'occurrence en commençant par le bois. Ceci dit, ça nous permettra de réellement cerner le marché, de l'organiser et de le professionnaliser. En ce moment-là, tout ce qu'on est en train de connaître là, qui est en fait le produit de l'artisanat de gestion publique, va simplement disparaître. Une dernière chose que moi j'aimerais quand même dire, je le ramasse dans ce que le conseiller disait tout à l'heure. On a des gens qui, eux, créent des taxes. Et voici, c'est la police. C'est la taxe créée par l'armée. On est où, là? On est dans la cour du roi Péto? Ce n'est pas complètement acceptable. Et c'est ce genre de choses qu'on doit stopper. Quand moi j'entends ce genre de choses, j'ai pitié. J'ai pitié pour notre République. Mais la deuxième des choses, c'est les gens qui convertissent du bois en charbon. Vous savez, le mètre cube du bois est à 300 dollars. Lorsqu'on a brûlé et qu'on a fait du charbon, ça coûte 100 dollars. Est-ce que c'est vraiment intelligent?
Alors, quels sont les moyens, les solutions alternatives, Al Kitenge?
Ah, bien sûr, le solaire est un véritable moyen. Aujourd'hui, le soleil est devenu une véritable alternative et la technologie est très développée. On peut la vulgariser auprès des villageois, on peut la vulgariser auprès des gens qui n'ont pas accès à l'électricité. Et je peux vous dire que ça donne des très très bons résultats. Et faute d'alternative, bien entendu, les gens se ruent sur le bois, ils le coupent, ils le convertissent en un produit fini qui vaut moins que la matière première, et très malheureusement, c'est une perte. Encore une fois, il est important de se rendre compte que lorsque nous avons une matière première, il faut professionnaliser son exploitation.
Et en plus de l'énergie solaire, Al Kitenge, il faut peut-être diriger vers d'autres secteurs tels que l'agriculture.
Oui, ça c'est véritablement donner une opportunité aux gens de se développer. L'agriculture est un véritable moyen de développement intégré des gens qui vivent en dehors des grands systèmes. Et il n'y a pas moyen de faire autrement comme partout ailleurs, là où ils ont réussi, c'est faire travailler les gens en mutuelle, en coalition, pour être en mesure de mettre les moyens ensemble et leur donner des véritables moyens de gagner leur vie. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils peuvent vendre le bois et le vendre au tiers du prix de la matière première, et ce qui est complètement ridicule. Et je crois simplement qu'il faut donner une véritable alternative de développement économique à tous les citoyens congolais, où qu'ils soient.
Maître Irène Wabiwa, vous êtes chargée de campagne forêt à Greenpeace Afrique. Parmi les recommandations, ne faudrait-il pas également changer le cadre juridique pour l'actualiser, en fait?
Merci beaucoup, mais avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir à ce qu'a dit monsieur le conseiller en disant que le ministère de l'Environnement ne peut pas faire le contrôle jusqu'au port des Matadi. J'aimerais d'abord souligner que le ministère de l'Environnement couvre toute la République démocratique du Congo. Il n'y a pas que le ministère. Quand on parle du ministère de l'Environnement, on ne voit pas que les bureaux du ministre qui se retrouvent ici à Kinshasa. Il y a des bureaux, il y a des gouvernements provinciaux, il y a des ministères au niveau de province, il y a des services de contrôle des inspecteurs provinciaux qui se retrouvent au niveau des provinces. Et si nous parlons seulement de Kinshasa, pour dire que le ministère de l'Environnement se focalise au niveau de Kinshasa, au port de Kinkolé, nous sommes partis au port de Kinkolé. Comme vous pouvez le voir dans le rapport, il y a du désordre organisé qui se font au niveau des ports de Kinkolé. Le marquage, c'est une exigence légale. L'arrêté 035, qui réglemente l'exploitation forestière dans notre pays, exige que tout bois doit être marqué à partir de la souche. Mais qu'est-ce que nous avons constaté au port des de Kinkolé? Il y a des grumes, des stocks de grumes qui sont sans marquage. Et il y a les gens de la DCVI, la direction de contrôle, vérification ici à Kinshasa, qui se retrouvent dans ce port et ils voient tout ça. Mais qu'est fait le ministère de l'Environnement même ici à Kinshasa? Le contrôle est presque inexistant. Les mêmes permis, ils arrivent sur les grumes, les permis que le ministre a annulés il y a quelques mois, il y a des grumes qui sont marquées sur base de ces permis et qui ont été coupés après que les permis aient été annulés. Mais qu'est fait même le ministère au niveau de Kinshasa? Il n'y a pas de contrôle.
Alors, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Maître Alain Mbalaka, je vous vois demander instamment la parole. Très rapidement, réaction.
Je voulais réagir juste un peu pour dire à madame, réagir à ce que madame vient de dire par rapport au contrôle au niveau du permis. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit ceci. C'est-à-dire que chaque service doit prendre sa part des responsabilités. Lorsque nous saisissons, nous envoyons ici, la cité prend sa part de responsabilité. Lorsqu'il y a un permis d'exportation, nous annulons. C'est-à-dire qu'au niveau de la DGDA, ça ne peut pas sortir. C'est-à-dire que j'ai dit, pas le ministère, n'allez rien faire au port, mais chacun des services doit prendre sa part. Mais par rapport au port de Kinkolé, par exemple, je vais garantir et apaiser madame pour lui dire que nous sommes en train de contrôler, ne vous en faites pas. Il y a eu une mission mixte dernièrement entre le gouvernement provincial de Kinshasa et l'environnement, le gouvernement central. Nous avions soumis à l'autorité des projets, des décisions à prendre, où nous demandons aux tenanciers des ports de ne plus recevoir dans leur port des bois illégaux. Vous comprendrez, madame. Donc, il y a des pistes de solutions qui sont envisagées. Et nous allons satisfaire aux soucis des Greenpeace et autres partenaires du secteur de bois.
Maître, excusez-moi, en guise de conclusion, parce qu'il nous reste moins de 2 minutes pour terminer. En guise de conclusion, faut-il espérer que le secteur forestier, l'exploitation forestière se relève en RDC?
Nous vous garantissons que le secteur sera contrôlé, sera pris. Le contrôle sera pris totalement par le gouvernement et que il y aura de l'ordre dans ces secteurs parce que nous sommes en train de prendre des décisions et des efforts qui sont conjugués par le ministère de l'Environnement, par le gouvernement, pour que les secteurs soient exploités de manière légale.
Al-Kitenge, le cadre juridique, faut-il le modifier ou faut-il carrément respecter la loi pour conclure?
À mon avis, il faut quand même moderniser le cadre légal. C'est extrêmement important. Pour répondre à des impératifs simples, le premier impératif, c'est de dire, est-ce responsable pour un pays qui a une forêt comme la nôtre de pouvoir importer du papier ou de pouvoir importer des chaises, y compris les chaises des ministres, des députés, des sénateurs, qui sont faits en fait des déchets de bois? C'est irresponsable. Deuxième chose, j'ai pitié du conseiller du ministre. Il a passé tout son temps à se plaindre de l'État, de son dysfonctionnement et de ses faiblesses. Je pense qu'il est important qu'on se rende compte que notre État est très faible et leur travail est difficile. La dernière des choses, je leur recommande, au lieu de faire du marquage à la main, de faire du marquage à ce qu'on appelle le RFID. Ce sont les antennes, elles permettent une traçabilité même en n'étant pas sur site.
Alors la lutte contre la corruption reste un véritable défi.
L'État, la gouvernance, le sérieux de l'efficacité, c'est extrêmement important pour un État. Sans ça, nous n'avons pas de résultat.
Maître Wabiwa, conclusion.
Je vais revenir sur l'harmonisation du cadre légal. Je pense qu'il y a quand même besoin d'harmoniser le cadre légal parce qu'il y a des arrêtés qui se contredisent dans notre pays. À l'occurrence, l'arrêté 035 et l'arrêté 011 qui se contredisent entre les compétences qui reviennent au ministère central et les différents gouvernorats. Mais aussi, ce qu'il faut, c'est de mettre en application ces lois qui existent. Parce que on peut avoir un cadre légal harmonieux, mais s'il y a de, il y a pas effectivité de ces cadres sur le terrain, il y a pas besoin d'avoir une loi. Et aussi, ce que j'allais dire, c'est que le gouvernement doit prendre des mesures pour rendre les secteurs forestiers utiles pour le peuple congolais et non pour une équipe de personnes qui s'enrichissent au détriment du peuple congolais.
Merci madame, messieurs d'avoir participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est terminé pour ce soir. Merci à vous chers auditeurs internautes de votre attention. Merci également à l'équipe rédactionnelle de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à vous présenter cette émission. J'ai cité Guy Maté, Samuel Kacha, Kelly Nkouté sous la supervision de Pélékipé Lamondo. Mimi Kindou était à la technique, Bob Landou également. Bonne suite au programme sur Radio Capi.